Alors bonsoir à tous. Hier, nous avons commencé à lire ensemble une lettre. Une lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux chrétiens à Éphèse. Éphèse, c'est une ville qui se trouve dans la Turquie actuelle. Paul était déjà passé par cette ville, il avait fondé cette église. Et quelques années après, 6 ou 7 ans après, il écrit cette lettre. Parce qu'il voulait encore communiquer des choses aux chrétiens de cette église. Il voulait qu'ils progressent vers la maturité. Hier, nous avons lu le premier chapitre. J'imaginais quelque part, pendant que je vous parlais, qu'il y avait une pièce quelque part à Éphèse, et donc les chrétiens étaient rassemblés. Je ne sais pas s'ils rassemblaient à cette pièce ou c'était chez quelqu'un. Et voilà, ils ont reçu cette lettre. Et j'avais dit que pour les habitants de la ville, pour les habitants de l'Empire romain à l'époque, c'était étonnant. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils disent que c'est une religion, mais ils font rien de religieux. Ils reçoivent des lettres, ils se réunissent pour dire les lettres qu'ils ont envoyées les uns aux autres. Bon, nous, on sait que ce sont des lettres inspirées que l'apôtre Paul a écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, des lettres sans erreur, pour aider ces chrétiens à grandir. En tout cas, ils ont commencé à lire cette lettre, peut-être c'était l'équipe pastorale de cette petite communauté qui l'a lue. Donc, ils ont lu les salutations de la part de Paul, et puis toute une liste de bénédictions que nous, chrétiens, nous avons été élus en Christ avant la fondation du monde, que nous avons été adoptés pour rentrer dans la famille de Dieu, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, que nous sommes inclus dans le plan éternel de Dieu, que nous sommes héritiers de toutes les promesses, que nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour rester fidèles. Et je crois à la fin de cette première partie, ils ont dû dire « Amen » ou, comme on le dit aujourd'hui, « Waouh !» En France au moins on dit ça. Qu'est-ce que c'est incroyable! Mais ils ont commencé peut-être à dire, mais je ne suis pas sûr que je comprenne toutes les dimensions de ça. Donc Paul dit après, j'ai prié pour vous, pour que petit à petit vous puissiez comprendre, que les yeux de votre cœur soient illuminés, pour comprendre quelle est cette espérance que vous avez. Quelle est la puissance de Dieu envers nous? Voilà ce qu'on a vu hier soir. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu plus loin. Parce qu'à la fin du chapitre 1, Paul a parlé de l'Église. Et il commence la prochaine phrase. Avec une affirmation extraordinaire. Il est en train d'écrire aux chrétiens et il dit « Vous étiez morts. » Vous étiez morts. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas dire à quelqu'un facilement « Tu étais mort. » Mais dans la Bible, on parle de gens qui sont morts spirituellement. Et pourquoi ? La fin de cette phrase nous le dit, par vos offenses et par vos péchés. C'est la mort spirituelle où on est coupé de la source de la vie, on est coupé de Dieu par notre péché. Déjà, dans le jardin d'Éden, la menace de Dieu était là. S'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient mourir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce jour-là, ils sont morts spirituellement. Romains 6 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui est extraordinaire, Paul va le dire tout à l'heure, que tous étaient dans cette situation, tous étaient morts. Ça veut dire que si vous êtes venu ici en voiture, ou en bus, admettons, je ne sais pas s'il y a des bus ici, ou si... Vous avez eu peut-être un conducteur mort qui vous a conduit ici. Si vous achetez du pain en route, peut-être la boulangère était morte. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais ça s'applique à nous aussi. Même si on est dans une famille chrétienne, dans un pays où il y a beaucoup de chrétiens, sans la foi en Jésus-Christ, nous sommes morts spirituellement. Et ce qu'il dit au verset 3, il dit, nous tous, nous étions de l'ennombre. Nous tous, si vous avez la Bible, vous pouvez suivre. Hein. Nous tous, nous étions de l'ennombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça veut dire quoi? Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. On faisait ce que notre chair nous dictait de faire. Attention, la chair, ce n'est pas notre corps. Parce que Dieu nous a créés avec un corps, et le corps en tant que tel n'est pas mauvais. La chair, c'est lorsque nous faisons avec notre corps des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est ça la chair. C'est la vieille nature dont on a parlé tout à l'heure. Donc, nous vivions donc, selon le train de ce monde, c'est encore un selon au verset 2, selon le train de ce monde, ça veut dire comme tout le monde. C'est facile de suivre tout le monde. Beaucoup plus difficile d'être chrétien, parce que là, on est à contre-courant, on est différent. Mais on marchait selon le train de ce monde. Troisième selon, selon le prince de la puissance de l'air. Donc, le prince de puissance de l'air, c'est Satan. J'aime bien une traduction qui dit, qui s'interpose entre ciel et terre. Donc l'air qui nous entoure en quelque sorte, qui entoure notre monde, Satan voudrait s'interposer en quelque sorte entre terre et ciel et nous empêcher d'avoir la relation avec Dieu. Et selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, les êtres humains sont rebelles vis-à-vis de Dieu. Ce que je viens de dire est extraordinaire. Et on va revenir à cela tout à l'heure. Parce que ce n'est absolument pas ce que les gens pensent autour de nous. Absolument pas. D'une part, c'est un peu le plan philosophique, ils ne vont pas dire que il y a deux niveaux, ce que Dieu voulait et ce qui se passe actuellement. Il regarde le monde et dit, c'est ça le monde, c'est la seule chose qu'on peut regarder. Et quand il regarde le monde, il n'ose pas dire que nous sommes mauvais, pécheurs, rebelles. Ils vont souvent dire, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression, en France les gens le disent souvent, oui, il a fait des mauvaises choses, mais il a un bon fond. Il n'est pas si mauvais que ça. La plupart des religions ne disent pas que nous sommes pécheurs. Ils pensent que nous faisons des péchés. Mais ils ne disent pas que nous sommes pécheurs, fondamentalement et séparés de Dieu. Et sans l'Évangile, voilà notre situation. Donc je relis les trois premiers versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, comme tout le monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions, par nature, des enfants de colère. comme les autres. Des enfants de colère. Ça veut dire des enfants, ou des êtres humains, enfants de Dieu au sens générique, sur lesquels repose la colère de Dieu à cause de notre péché. C'était mon cas. J'ai parlé un peu de ma conversion hier soir. Je me souviens, je suis allé à une réunion avec un pasteur qui a parlé des 10 commandements. Et au début, je me disais, ah, je connais plein de gens qui... c'est dommage qu'ils ne sont pas là, ils auraient bien, bien besoin d'entendre tout ça. Hein, que, voilà, moi je suis quelqu'un, moi j'ai cet droit, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, enfin, etc. C'est pas tout à fait pour le vol, parce qu'avec des copains, on avait quand même volé une fois dans un magasin. Mais bon, quand j'étais adolescent. Mais je me disais, au fond, j'aimerais que les autres entendent, et plus... le prédicateur continue à parler, plus je me disais, ça me concerne. J'ai péché en acte, j'ai péché en pensée, j'ai péché en parole, j'ai péché en intention, je suis pécheur. Et récemment, quelqu'un qui a commencé à fréquenter notre église a demandé rendez-vous avec moi et Marie. On ne savait pas ce que cette femme voulait nous dire, mais elle est là depuis quelque temps. Elle a dit, ça fait pas trop longtemps que je suis dans l'église, mais j'ai compris une chose, c'est que je suis pécheur. Qu'est-ce que je dois faire? C'était bien. C'est ce que Jésus appelle la conviction de péché. Et ce péché, il est profond, parce que nous avons lu dans le verset 3 que c'est les volontés de la chair et de nos pensées. Et non seulement on fait de mauvaises choses, mais on se fait une idée dans la tête, une représentation mentale, comme si ce n'est pas si mauvais que ça, et puis tout le monde le fait. Et voilà où nous en sommes. Et c'est la raison pour laquelle, je vais juste le mentionner au passage, que les premières paroles de Jésus, les premières paroles avant lui de Jean-Baptiste, les paroles de Jean-Baptiste à la Pentecôte, de Paul aussi dans les Actes, quand il parlait avec des personnes, c'était « Repentez-vous et croyez ». Maintenant, il faut bien comprendre se repentir. Se repentir veut dire pas autre chose au fond dans la Bible que changer d'idée, changer de pensée, changer d'avis. Avant, je pensais d'une certaine façon, je me repens, maintenant je pense autrement. Avant, je pensais peut-être que Jésus, c'était quelqu'un de bien, maintenant j'ai dit, c'est mon sauveur. Avant, je disais, Jésus, enfin, les chrétiens, bon, c'est bien, ils aiment chanter, ils aiment être ensemble, mais moi, je n'ai pas envie. Maintenant, j'ai dit, les chrétiens croient en Jésus comme leur Seigneur et leur sauveur. Donc, je change de pensée, je me repens. C'est très, très important. J'ai fait une étude avec tous les versets du Nouveau Testament qui disent que nous devons changer nos pensées. J'ai rempli une feuille A4, recto verso, avec tous les versets. Il y a beaucoup plus de versets qui parlent de ça que du baptême. Et pourtant, je crois au baptême. Il est tellement important de changer nos pensées pour qu'elles soient en phase avec l'enseignement de Dieu. Et si on dit qu'on est converti, on n'a pas changé de pensée, il y a un problème. Parce qu'aller vers la maturité, c'est ça. Donc, il faut d'abord bien comprendre qu'on est pécheur. Le verset 4 commence, mais. Et heureusement que dans la Bible, il y a ce petit mot de 4 lettres, mais. S'il n'y avait pas ce mot-là, on serait complètement perdu. Mais Dieu, donc je lis les versets suivants, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 4. Mais Dieu. Pourquoi Dieu est intervenu? Dieu est tellement grand et tellement puissant. Pourquoi il est intervenu pour les êtres humains que nous sommes? Nous ne faisons même pas 2 mètres de haut, au moins pour la plupart d'entre nous. On vit peut-être 100 ans. Petit virus, on est au lit. Alors que lui, il vit d'éternité en éternité. Pourquoi il s'intéresse à nous? Le verset 4 le dit, « Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Et un petit peu plus loin, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Dieu est miséricordieux. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Allez comprendre. Dieu, qui est amour de toute l'éternité au sein de la Trinité, le Père qui aime le Saint-Esprit qui aime le Fils et le Père, Jésus, le Fils qui aime le Père et le Saint-Esprit, etc., etc. Ce Dieu qui est amour nous aime. Il est intervenu malgré notre rébellion, malgré le fait que nous lui avions tourné le dos, puisqu'il est riche en miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Je crois que nous le comprenons dans la mesure où quelqu'un qui nous fait une petite offense, qu'est-ce qu'on a du mal à pardonner? Qu'est-ce qu'on a du mal à être miséricordieux et à aimer la personne? Et Dieu nous voit comme ces petites fourmis sur la planète Terre. Il dit, je les aime quand même. Je vais envoyer mon Fils. Et c'est donc en Christ que nous, qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par la résurrection de Jésus. On va y penser particulièrement dans 2 jours. Jésus est ressuscité, et parce que nous croyons en lui, il nous a rendus à la vie. Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Dieu ne nous dit pas, il faut mieux faire. Il ne dit pas, essayez de vivre comme je veux, et puis si je vois que vous avez fait des efforts, peut-être que je serai miséricordieux. Il nous a rendus à la vie alors que nous étions morts. Et cette vie, c'est quoi? C'est que nous sommes pardonnés, parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Alors mettons les 2 mots ensemble, miséricorde et grâce. Par sa miséricorde, donc accrochez-vous bien, vous êtes la plupart étudiants, donc vous êtes censés être l'élite. Alors, la miséricorde, c'est Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. La grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Ok ? Par la miséricorde, je reviens, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous méritons la punition, le châtiment, le jugement. Il ne le donne pas. Mais par la grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Le pardon, la relation avec lui, la vie éternelle. C'est énorme. C'est énorme. Vous pouvez dire « Amen » ou vous pouvez dire « Waouh » comme je disais tout à l'heure. Ce serait ça la même chose. « Amen » veut dire « Waouh ». Je suis d'accord, c'est formidable. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieu céleste en Jésus-Christ. C'est là notre patrie. Ma vraie patrie, ce n'est pas sur mon passeport. Sur mon passeport, c'est marqué République française. Mais ma vraie patrie, c'est la patrie céleste. C'est auprès de Dieu. Parce que je suis déjà ressuscité et en Christ, je suis attaché à lui. Donc dans un sens, oui, je suis déjà ressuscité. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec tout cela? Verset 7. Il veut montrer dans les siècles à venir, tout au long de l'histoire, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut nous montrer. Il veut montrer aux personnes autour de nous que il y a là des chrétiens, ils sont très différents les uns des autres. Ils ont tous eu du chemin différent pour arriver à Jésus. Mais finalement, ils sont arrivés à Jésus. Et dans cette infinie richesse de sa grâce, nous sommes sauvés. Sauvés du danger de la mort éternelle, du jugement. Et comment nous sommes sauvés? Le verset 8 insiste. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est ça la différence. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est humain. Quelque part en nous, on ne veut pas recevoir quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe ici ou dans votre pays, mais en France, par exemple, on est invité chez quelqu'un pour un repas. Bon, il faut arriver avec des fleurs, ou avec des chocolats, avec une bouteille de vin ou quelque chose comme ça. On n'arrive pas les mains vides. Et parfois, on a cela dans la tête, qu'on ne peut pas arriver à Dieu les mains vides. Il faut lui apporter quelque chose. Mais il n'y a rien à lui apporter. Parce que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Si jamais on pense qu'on mérite le salut, on va se glorifier de cela. L'orgueil, c'est un péché, donc on n'est pas sauvé. Je pense que, je le dis souvent en France, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez passé ce qu'on appelle le bac, hein, donc à la fin des études secondaires. Et j'entends souvent les lycéens en France, ils vont dire, ah bah, pour réussir le bac, il faut avoir la moyenne. Ça veut dire qu'on a une mauvaise note, je ne sais pas, en sciences. Je vais avoir une bonne note en français si j'ai que 8 en sciences et si j'ai 12. En français, j'aurai 10, donc j'ai la moyenne. Et dans la tête, là je reviens encore à ça, dans la tête on se dit, ah, avec Dieu il faut avoir la moyenne. Et si j'arrive, ok, j'ai fait un peu de mal, mais je vais quand même aider une vieille dame à traverser la rue, et puis voilà, j'aurai 12, j'aurai la moyenne. Le problème, c'est que pour Dieu, la moyenne n'est pas 10, c'est 20. C'est 20 sur 20. On fait un péché, on a 19. Mais comment allez-vous faire pour avoir un 21? Ce n'est pas possible. On ne peut pas se racheter soi-même. Ce n'est pas possible. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, on arrive au verset qui se trouve au milieu de ce texte, de ce chapitre, qui est un verset clé. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un verset extrêmement important. D'abord, nous sommes son ouvrage. Le mot en grec pour ouvrage, c'est poema, d'où on a le mot poème. Donc, l'ouvrage de Dieu, en quelque sorte son chef-d'œuvre, c'est nous. Donc, C'est vrai que parfois les gens regardent dans la nature, ils regardent le ciel étoilé et disent ouais, « ça c'est super ». Ou ils vont dans la montagne et ils voient la beauté de Dieu dans la création. Ils disent « mais Dieu, il est vraiment, c'est super son œuvre ». Ou peut-être ils regardent quelques fleurs, ils disent bon, « qu'est-ce que c'est joli, Dieu fait toutes choses vraiment de façon extraordinaire ». Mais le chef-d'œuvre de Dieu, vous n'êtes même pas obligé de quitter cette salle. Vous regardez les uns les autres. Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que les chrétiens, c'est ça. Le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a rachetés pour être son ouvrage, son chef-d'œuvre. C'est l'Église. Et ont été créés en Jésus-Christ. Ce qui est important à retenir là, ce mot créé. Sauf, il me semble, une ou deux exceptions, dans toute la Bible, quand on dit que Dieu crée, il crée à partir de rien. Ex nihilo, si on veut un terme théologique. Il crée à partir de rien. Quand il est dit que l'univers existe, ça n'existait pas. Et puis, ça existait. Alors, quand il dit que nous avons été créés, ça veut dire qu'il n'y a rien dans un sens, dans ce qu'on était avant, qui fait de nous des chrétiens. Il nous crée chrétiens, il nous crée en tant qu'Église, et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre de versets que vous connaissez peut-être. 2 Corinthiens 5, 17. Quelqu'un le connaît. 2 Corinthiens 5, 17, un verset très très bien connu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le même mot créé. Ça, c'était un verset pas trop compliqué. Certains connaissent. Galates 6 et le verset 15. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc, nous sommes son ouvrage, il nous a créé, il a créé l'Église pour être à sa gloire. Et qu'est-ce qu'il veut que l'on fasse maintenant? Il nous a créé pour de bonnes œuvres, qu'il a même préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, il faut bien saisir, parce que les versets précédents ont dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Le verset 9. Et le verset 10 dit que nous sommes sauvés pour les œuvres. Ce petit mot change tout. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Personne ne peut dire « je suis sauvé par ce que j'ai fait ». Regardez dans le cahier tout ce que j'ai fait de bien. Seigneur, regarde. Non, on est pécheur, mort spirituellement. On a besoin de la grâce. Mais une fois que nous sommes sauvés, et que nous sommes son chef-d'œuvre. Il veut que nous fassions de bonnes choses, de bonnes œuvres. Et dans mon église à Paris, j'ai prêché sur les bonnes œuvres dimanche passé, j'ai trouvé au moins une dizaine de versets dans le Nouveau Testament qui disent que nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous sommes de nouvelles créatures et on va vivre autrement, on va vivre de façon différente. Maintenant, tout a changé. Je vais juste résumer ce qu'on a vu jusque-là. Parce que je crois, le mot que j'aime beaucoup, un mot que j'aime énormément, c'est que nous devons nous émerveiller. Les Écritures nous invitent à nous émerveiller. Ce n'est pas la même chose que le merveilleux. Mais c'est s'émerveiller de ce que Dieu a fait. Donc, on peut s'émerveiller selon la justesse de l'enseignement biblique sur la condition humaine, que nous pouvons comprendre pourquoi à la fois les êtres humains ont de la valeur, ils ne sont jamais à mépriser, mais qu'ils font beaucoup de mauvaises choses. Et croyez-moi, moi j'ai lu toutes les philosophies que j'ai pu trouver, j'ai examiné toutes les religions que j'ai pu examiner, je n'ai jamais trouvé nulle part une religion ou une philosophie qui explique à la fois pourquoi l'être humain a tant de valeur créé à l'image de Dieu, mais fait tellement de mauvaises choses, c'est parce qu'il est pécheur. On peut s'émerveiller de cette analyse. On peut aussi s'émerveiller de ce salut par la grâce que nous ne méritons pas. Dieu est tellement bon envers nous. On peut s'émerveiller de la finalité du salut, que nous soyons son ouvrage. Et c'est ça que l'on va voir maintenant dans la deuxième partie de ce chapitre. Son ouvrage, vous avez bien lu au verset 10, ce n'est pas « car je suis son ouvrage », mais « car nous sommes son ouvrage ». Et l'Église, donc l'ensemble des rachetés, l'ensemble des sauvés, c'est son ouvrage. Et maintenant, donc, dans la deuxième partie d'Éphésiens 2, on va parler un petit peu de cette Église. Et si vous avez été attentif au titre de ce que j'ai mis sur le PowerPoint, cette Église, c'est la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer. Nous sommes la nouvelle humanité. Donc ça, je vais expliquer. Mais regardons donc la suite. Dans la partie 11 à 18, Paul parle beaucoup de deux groupes. Il parle des juifs et des non-juifs. Parfois, selon les textes, on utilise le mot païen, mais païen, ça voulait dire non-juif. Dans certains livres ou certains bibles, on parle de gentil, mais ce n'est pas gentil dans le sens de quelqu'un qui est gentil parce qu'il ne fait pas trop de bêtises. C'est gentil, ça vient du mot gens, ce sont les gens qui ne sont pas juifs. Et le mot que les juifs utilisent, c'est goyim, un goy, c'est quelqu'un qui n'est pas un juif, c'est G-O-Y, les goyim au pluriel, ce sont les non-juifs. Et tout au long de ces versets 11 à 18, il va montrer qu'il y avait deux groupes, les juifs et les goyim, les non-juifs, et en Dieu, ceux qui croient en Jésus deviennent un peuple, la nouvelle humanité. Et c'est extraordinaire. Donc on va regarder ça. D'abord, les versets 11 et 12, je les lis. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Toutes ces choses, les non-juifs les vivaient. Incirconcis, on va dire pour eux, ce n'était pas important. Pour les juifs, c'était important. C'était le signe de la première alliance, de l'ancienne alliance, dont Moïse était un petit peu l'intermédiaire. Ils étaient sans Christ, sans Messie, parce que les juifs attendaient le Messie qui allait tout changer. Mais les païens, ils se levaient chaque matin, ils ne s'attendaient pas à ce que les choses aillent mieux. Ils travaillaient toute la journée, ils se couchaient, ils se levaient le lendemain, il n'y avait aucune espérance, comme il dit. Étrangers aux alliances, puisqu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, de la race élue, pas de droit de cité en Israël. Ils n'avaient pas cette alliance avec Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans tout, sauf le fait qu'il fallait se lever pour travailler, pour gagner de l'argent, pour manger, pour avoir la force de travailler le lendemain, pour gagner de l'argent, pour manger, pour avoir la force de travailler, enfin, ça continue comme ça, sans espérance, sans Dieu. Ça, c'était les non-juifs. Mais, deuxième fois, quand on voit ce petit mot de quatre lettres, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc ceux qui sont loin, c'était les goïms, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est par le sang de Christ que nous avons le pardon et la réconciliation, ce qui va expliquer. C'est important d'y penser en ce jour, parce que c'est Vendredi Saint. Personne n'a mentionné jusque-là. C'est quand même Vendredi Saint. C'est le jour où Jésus a été crucifié sur la croix, qu'il a versé son sang avec une souffrance physique que l'on ne peut même pas imaginer, et une souffrance spirituelle encore pire qui a fait qu'il avait pleuré dans le jardin d'Éden. Dans le jardin de Gethsémané, avant de souffrir la mort, parce qu'il savait qu'en recevant nos péchés sur lui et en subissant le châtiment que nous méritions, il allait vivre ce que nous vivions avant d'être chrétien, donc séparé d'avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est écrit à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La seule fois de toute l'éternité où le Père et le Fils étaient séparés dans leur relation. Parce qu'ils portaient notre péché. Et en théologie, on appelle ça la substitution pénale, parce que Jésus s'est substitué à nous pour porter la peine, le châtiment que nous méritons. C'est une doctrine extrêmement importante, parce que sans cela, nous n'avons pas d'espoir. Jésus a porté à notre place, donc substitution, le châtiment que nous méritions, pénal. Donc il a versé son sang pour rapprocher les païens et les juifs. Pour qu'il y ait la réconciliation. Donc, je lis les versets 14 à 16. Car il, donc Jésus, est notre paix, lui qui des deux, donc les païens et les juifs, les non-juifs et les juifs, lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, qu'on peut aussi traduire la haine entre les deux peuples, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La raison pour laquelle Jésus est mort, c'était pour, en quelque sorte, détruire la loi, non pas la loi morale de Dieu, mais détruire la loi comme moyen d'être sauvé. Tout au long de Nouveau Testament, on parle de cela. À un certain moment, les premiers chrétiens sont réunis à Jérusalem pour en parler. Et ils ont dit, écoutez, c'est Pierre qui dit dans Acte 15, verset 10, que nous ne pouvons pas porter sur le cou un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter, la loi. On ne peut pas obéir à la loi. On ne peut pas. En tant que moyen de salut. Ça ne veut pas dire que la loi n'a aucune valeur après, mais comme moyen de salut. C'est la grâce, par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, cette loi, avec ses ordonnances, a été anéantie par la chair de Jésus, parce qu'il a donné, ça c'est plutôt par sa mort, on va dire, et qui a donc renversé le mur de séparation, ce mur qui séparait les juifs et les non-juifs, parce que les juifs pensaient qu'en pratiquant la loi, qu'ils pourraient être en règle avec Dieu. Jésus a beaucoup critiqué les pharisiens d'ailleurs, parce qu'ils pensaient que c'était possible. Et qu'est-ce qu'il veut en faire? Et là, on arrive à la finalité de nouveau du salut. C'est la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie. Parce qu'il a voulu créer en Christ, avec les deux, un seul homme nouveau. Donc homme dans le sens générique, humanité. une seule nouvelle humanité, en établissant la paix avec lui et entre nous, et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant la haine ou l'inimitié. Et Dieu continue à faire cela. Une église, c'est quoi? C'est à la fois, c'est là où les rachetés se retrouvent, sauvés par la grâce, mais c'est une école d'apprentissage de la vie. Parce que c'est les uns avec les autres qu'on apprend à nous aimer les uns les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais j'ironise un peu, il est plus facile de dire « j'aime tous les chrétiens au Brésil » que les chrétiens qui est assis sur le pont à côté de moi. Parce que je connais ces petits travers. Et Dieu nous demande de nous aimer vraiment les uns les autres. Nous sommes les bien-aimés. Mais parfois, il faut faire des efforts pour cela. Parce que c'est facile d'aimer les gens qui ont toutes les mêmes pensées que nous. Mais ça se trouve que personne n'a les mêmes pensées. Et donc Dieu veut faire de nous une unité, cette nouvelle humanité. Et en disant humanité, je souligne ce mot humain. Quand nous nous convertissons, il y a deux choses qui se passent, à mon avis. La première chose, c'est que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu. La deuxième chose qui se passe, c'est que maintenant que nous sommes chrétiens, Dieu veut recréer en nous son image, parce que nous sommes créés à son image, l'image ternie par le fait que le péché est entré dans le monde. Donc il veut nous transformer. Et il veut nous transformer en quoi? En être humains qui le connaissent. Donc les chrétiens sont appelés à être les plus humains de tous les humains. Je répète. Dieu veut que l'on soit les plus humains de tous les humains. Ça veut dire que chercher à comprendre l'autre, chercher à dialoguer avec lui, chercher à l'aimer, chercher à lui faire du bien, chercher à l'écouter, chercher à le comprendre. Il y a beaucoup de souffrances qui ne disent pas leur nom, parce qu'on ne se parle pas. On est de bons chrétiens spirituels, on chante fort, on chante bien. Mais est-ce qu'on sait ce que se passe chez l'autre chrétien? Une idée qui revient énormément dans le Nouveau Testament, c'est parler les uns aux autres, si on est chrétien. De se parler. Donc, nous sommes appelés à vivre cette nouvelle humanité. Et je termine avec le verset 18, en fait, voilà. La paix pour les Juifs et les paix pour les Goïm. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père par Jésus. Jésus, on parlait en termes d'Internet, est notre fournisseur d'accès au Père. C'est le même mot, hein? Il est notre fournisseur d'accès. Par le sang de Jésus, nous avons accès au Père. Dans un même esprit. Donc, conclusion. Je vais simplement lire les versets 19 à 22. Qui sommes-nous? Vous voyez l'écran. Concitoyens du même royaume, membres de la même famille, et nous formons une même maison spirituelle où habite le Seigneur. Ce n'est pas dans un temple fait de pierre, de bois, mais nous. Donc, voilà la conclusion. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Si nous sommes, en tant qu'Église, l'habitation de Dieu, le Dieu trois fois saint, c'est notre motivation pour vouloir vivre à sa gloire, pour pratiquer les bonnes œuvres préparées d'avance, en restant extrêmement humbles et reconnaissants, parce que jamais nous pourrons prétendre être complètement à la hauteur. Et on revient tous les jours à « Vous êtes sauvés par la grâce » et non pas par les œuvres, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que quand nous lisons ces textes, on a toute une nouvelle dimension de qui tu es, de ce que nous sommes, et nous le sommes seulement parce que tu es vraiment notre Sauveur, Jésus, le chef de l'Église qui nous a rachetés pour ton Père, qui assure ce libre accès auprès du Père. Comme hier soir, Seigneur, nous sommes dépassés par cette vision. Nous n'arrivons pas à tout comprendre, mais nous prions que nous puissions mieux comprendre toutes les dimensions de cette bonne nouvelle de l'Évangile qui nous réconcilie avec toi, qui nous donne la vie éternelle, qui nous réconcilie les uns avec les autres pour que nous puissions former cette nouvelle humanité visible aux gens qui sont autour de nous, de par notre conduite, par notre foi, par notre amour. Seigneur, ouvre nos yeux, illumine les yeux de notre cœur pour bien comprendre toutes ces dimensions, pour que nous puissions progresser vers la maturité en toi. Au nom de Jésus. Amen.